franceinter.fr.
Bonjour. Au sommaire de cette édition, Donald Trump à Bruxelles pour un mini-sommet de l'OTAN et surtout pour ses premières rencontres avec les dirigeants de l'Union qu'il ne porte pas spécialement dans son cœur. Les premiers pas également dans une rencontre internationale du président Macron. C'est une sorte de bal des débutants. Les deux hommes d'ailleurs déjeunent ensemble en ce moment même. L'occasion de se demander quelle sera la ligne de politique étrangère du nouveau président français. En ligne avec nous, Pascal Boniface, directeur de l'Institut des Relations internationales. National et stratégique. À Manchester, l'enquête progresse autour du kamikaze. 8 personnes sont en garde à vue. C'est un véritable réseau que les enquêteurs britanniques mettent au jour. Une minute de silence a été respectée dans toute la Grande-Bretagne il y a une heure. Le règlement intérieur du gouvernement, publié ce matin dans le journal officiel, Édouard Philippe en proviseur sévère, appelle à une triple exigence, exemplarité, collégialité, efficacité. Dans cette édition également, les syndics de propriété de nouveau épinglé par l'UFC Que Choisir. Au Festival de Cannes, en lice aujourd'hui un film ukrainien, Une femme douce. Et puis le rush sur les campings de Bretagne en ce pont de l'Ascension ensoleillé. Nous ferons aussi un point sur le trafic automobile. Beaucoup de monde sur les routes à l'heure qu'il est. Le temps, bonjour Sébastien Léas, on bonjour y revient. Alain. Eh bien, c'est beau, désert d'été même.
Oui, cet après-midi, le soleil régnera sans partage dans un ciel bleu azur et les nuages seront aux abonnés absents. Les quelques nuances dans ce beau temps seront minimes. On retrouvera des bourgeonnements nuageux sur le relief des Alpes du Sud, de la Corse et des Pyrénées. Quelques averses se feront remarquer, mais elles resteront anecdotiques. Et sur le littoral de la Côte d'Azur, les entrées maritimes qui étaient bien compactes ce matin vont se morceler, mais elles seront localement un peu plus résistantes, notamment vers les côtes varoises. À noter qu'il y a un peu de vent dans le Val de Saône et la vallée du Rhône.
Et il fait chaud.
Oui, déjà 31 degrés à la pointe de Socoa, 32 degrés à Béziers. Cet après-midi, on ira jusqu'à 25 degrés à Lille et Strasbourg, 27 pour Paris, 28 à Lyon, Marseille et à Brest, 31 degrés pour Toulouse et pour Nantes, 33 degrés à Montpellier et à Bordeaux. On pourrait même grimper jusqu'à 35 degrés dans le sud-ouest. En revanche, il ne fera que 23 degrés à Nice et 22 degrés à Cherbourg.
On se souvient de l'émotion en France après les attentats successifs que l'on a connus et de ce besoin de se rassembler. Après les Mancuniens, ce sont les Britanniques dans leur ensemble qui se sont recueillis dans le silence. Voilà une heure précisément. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Le maire de Manchester avait lui appelé les habitants à se rassembler sur la grande place de la ville.
Place Sainte-Anne et des journaux du matin avec leur une noire s'échangent. Le sol de la place est recouvert de fleurs, bougies et messages aux victimes, parfois adressés spécialement à l'une d'entre elles. Je voulais être là pour les familles, pour les soutenir comme on le peut. Je pense que cette attaque a rapproché les gens. C'est étrange, vous voyez des informations tout le temps dans les journaux, mais c'est dur de réaliser, de penser que c'est arrivé chez nous. Moi, je travaille juste là.
I can't get used to it,
et je ne peux pas m'y faire.
Mon frère Eamon,
on a des noms irlandais. Il voulait aller courir le marathon à Paris et il disait, malgré la menace, personne ne m'en empêchera. Et maintenant, mes enfants, je leur ai demandé de venir ici aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu, trop peur. Mais on va continuer à avancer. La minute de silence commence. Elle durera bien plus d'une minute. Je suis fière de faire partie de Manchester, souffle cette femme.
Julie Pietri, merci. Avec Pierre Quintard à vos côtés, les chansons que l'on entendait sur la place ce matin, c'était celle du groupe Oasis de Manchester, natif de Manchester. L'enquête continue, bien entendu, elle progresse même. Deux nouvelles arrestations ont eu lieu ce matin, là encore dans la région de Manchester, cette ville où vivait le kamikaze Salman Abedi. Les enquêteurs mettent toujours un véritable réseau autour de lui. 8 personnes sont actuellement en garde à vue et les investigations, Marie Vivant, s'étendent à l'étranger.
Le père et le frère cadet de Salman Abedi ont été arrêtés à Tripoli en Libye. Selon les services de sécurité libyens, son petit frère était au courant de la préparation de l'attentat. Il aurait également confirmé que le terroriste de la Manchester Arena appartenait à l'État islamique. Salman Abedi, dont le parcours se dessine petit à petit. Cet étudiant britannique de 22 ans se serait radicalisé auprès de Raphaël Osti, un jeune homme lui aussi originaire de Manchester, devenu recruteur pour Daesh. L'assaillant s'est récemment rendu rendu en Libye et avant de rentrer en Angleterre, il serait passé par l'Allemagne. D'après les services de renseignement locaux, il était à Düsseldorf 4 jours seulement avant l'attaque. Des détails émergent aussi sur l'engin utilisé par le kamikaze révélé par le New York Times. Le journal américain décrit une bombe artisanale et sophistiquée. Ces fuites dans la presse américaine agacent ici au Royaume-Uni. Elles pourraient perturber l'enquête, la ralentir. Les services de renseignement britanniques auraient d'ailleurs décidé de ne plus communiquer leurs informations à leurs homologues aux États-Unis. Londres, Marie Vivant, France Inter.
Le président américain est ressorti du Vatican hier, plus déterminé que jamais à œuvrer pour la paix dans le monde. Le pape François a-t-il une influence sur l'homme qui, il y a peu, menaçait de bombarder la Corée du Nord ? Toujours est-il que c'est un Donald Trump en quête de respectabilité qui est arrivé ce matin à Bruxelles pour y rencontrer des dirigeants européens qu'il n'a pas arrêté de critiquer pendant sa campagne. Le président a été accueilli à l'aéroport en milieu de matinée par le Premier ministre belge Charles Michel. Il rencontrera cet après-midi les présidents du Conseil et de la Commission européenne, Donald Tusk et Jean-Claude Juncker. Tout ce beau monde est à Bruxelles pour un mini-sommet de l'OTAN. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Alain, bonjour à tous.
On se souvient que Donald Trump avait provoqué l'inquiétude générale en disant pendant sa campagne qu'il voulait sortir de l'OTAN. On n'en est plus là, hein. Il a depuis révisé cette position. D'ailleurs, on ne devrait pas trop parler cet après-midi des sujets qui fâchent. Quentin, à quoi va servir cette rencontre ?
Eh bien, au menu, il y aura en tout cas d'abord la lutte contre le terrorisme. En Afghanistan, sera-t-il souligné par le secrétaire général de l'OTAN, les forces des États-Unis combattent les talibans, alors que celles des pays de l'OTAN les complètent en formant à grande échelle les unités de l'armée afghane. De même, les radars volants AWACS, propriété de l'OTAN, sont-ils déployés en nombre au-dessus de l'Afghanistan ? Et l'OTAN, en tant que telle, devrait se joindre officiellement à la coalition anti-Daesh, une mesure essentiellement symbolique, puisque les 28 pays membres de l'Alliance Atlantique en font déjà tous partie. L'autre thème vitrine, c'est le cofinancement de l'OTAN et la conformité des alliés des États-Unis à l'engagement ancien et rarement respecté de consacrer 2% de leur PIB au budget de la défense. On rappellera l'existence de la force de réaction rapide, 40 000 hommes, dont 5 000 opérationnels à très court terme, mais aussi des 4 groupements tactiques en Pologne et dans les pays baltes et des 8 quartiers généraux avancés en Europe de l'Est. Et on se réjouira de l'arrivée le mois prochain d'un 29e membre, en l'occurrence le Monténégro. Le seul risque, disait ici hier soir un diplomate italien, c'est que Donald Trump soit à ce point convaincu et enthousiaste qu'il ne tienne pas au texte de 3 minutes 30 qu'on lui a demandé de lire.
Merci Quentin Dickinson avec Benjamin Chauvin et ses moyens techniques. Donald Trump rencontrera aujourd'hui puis demain au sommet du G7 en Sicile, nous en reparlerons, plusieurs dirigeants européens, mais son déjeuner, il a choisi de le partager. C'est en ce moment même à l'ambassade américaine avec Emmanuel Macron qui aujourd'hui fait ses premiers pas de président français dans le ballet diplomatique mondial. Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'IRIS, observateur attentif des relations diplomatiques, on vous connaît bien sur France Inter. Pas anodin ce déjeuner finalement.
Non, effectivement, c'est la rencontre des deux dirigeants du monde qui en sont le plus fraîchement élus, puisque pour Donald Trump, c'est son premier vrai voyage à l'étranger, à la suite de l'Arabie Saoudite, d'Israël et de Rome, et Emmanuel Macron, c'est son vrai, finalement, baptême international, puisqu'il y a une courte visite chez Madame Merkel, mais là, c'est vraiment se jeter dans le grand bain avec deux sommets importants, l'OTAN et le G7.
Et vous pensez que ça peut les rapprocher, ces deux hommes ?
On peut penser que le déjeuner se passera bien et qu'il est probable que Donald Trump envoie un tweet élogieux disant que le président français est un type fantastique.
Et qu'il a de belles chaussures, éventuellement.
Oui, voilà. Et donc, disons qu'Emmanuel Macron n'a aucun intérêt et aucune envie d'être vindicatif par rapport à Donald Trump. Et Donald Trump est dans une phase un peu de séduction internationale où, mis à part l'Iran, il veut trouver tout le monde formidable et sympathique. Il cherche un peu à réparer un peu l'image catastrophique qu'il avait au cours de la campagne électorale.
Ça tombe bien, ils vont se séduire. Hein. Ils sont aussi séducteurs l'un que l'autre.
Ils ont un intérêt mutuel, effectivement, à dire que tout s'est bien passé et que, pour le président français, une fois encore, c'est son entrée en matière et donc c'est pas dû au calendrier, d'ailleurs, parce que ces sommets sont des sommets réguliers et là, cette année, ça tombe après une élection présidentielle. Et donc, dans la mesure où il veut endosser les habits du chef d'État, dans la mesure aussi où son élection était extrêmement suivie à l'étranger, les gens avaient peur de Marine Le Pen et son élection a été quand même bien
une sorte
vécu.
De soulagement.
voilà, de soulagement. En plus, il est jeune et attractif. On n'aime pas trop les inconnus, mais là, c'est un inconnu qui séduit plutôt. Donc, il a vraiment tout à gagner de ses premiers sommets internationaux. La seule chose qui puisse fâcher entre Donald Trump et Emmanuel Macron, c'est la volonté de Donald Trump de mettre en cause l'accord sur le climat qui avait été signé à Paris en décembre 2015. En même temps, c'est un sommet de l'OTAN et peut-être que ce sujet ne sera plus rapidement évoqué. Et s'il y a des divergences, elles ne seront pas évoquées publiquement.
Parlons d'Emmanuel Macron en particulier. Il fait donc ses premiers pas en tant que président, évidemment. Qu'est-ce qu'il a laissé voir de ses intentions jusqu'ici au niveau de la diplomatie? Est-ce que ça va être une surprise totale? Est-ce qu'on connaît déjà les grandes lignes de sa diplomatie?
De façon assez surprenante, à trois reprises et donc de façon insistante, il a évoqué une diplomatie gaullo-mitterrandienne, ce que ni François Hollande n'a jamais fait ça, et Nicolas Sarkozy encore moins. Et donc, il a indiqué un peu son intention de revenir aux fondamentaux de la diplomatie de la Ve République, ce qui veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que par rapport aux États-Unis, on est alliés, mais on n'est pas alignés, mais qu'on a également des relations avec la Russie. Et il n'est pas anodin que Emmanuel Macron, qui avait été maltraité par Poutine et par la presse russe au cours de la campagne, va poursuivre cette séquence diplomatique en recevant, en faisant un sommet avec Vladimir Poutine lundi prochain. Et donc là, par ce double contact États-Unis en montrant une différence et Vladimir Poutine, effectivement, il se rallie bien dans cette diplomatie gaullo-mitterrandienne.
Un homme se définit par ce qu'il dit, évidemment, ou ce qu'il écrit, mais aussi par les hommes qui l'accompagnent. Il y a un certain Jean-Yves Le Drian qui est à ses côtés. C'est important?
Oui, disons qu'il y a, parce que Jean-Yves Le Drian a l'expérience, 5 ans comme ministre de la Défense, c'est sa caution de gauche, de même qu'au cours de la campagne, Dominique Villepin était sa caution de droite comme ancien ministre des Affaires étrangères, et que maintenant c'est Madame Sylvie Goulard, ministre des Armées. Et donc on voit bien que dans les postes régaliens, Emmanuel Macron a fait attention à satisfaire les deux familles politiques dont il se réclame, ou du moins en faisant un peu appel aux deux branches de la vie politique classique.
Alors on voit aussi ses intérêts ou sa façon de faire avec ses collaborateurs proches, par exemple son directeur de cabinet, son conseiller diplomatique. Il a choisi des hommes qui sont comment?
Philippe Étienne est vraiment l'un des diplomates les plus chevronnés et les plus reconnus. Et effectivement, on voit bien, d'ailleurs, comme dans la dénomination du ministère du Quai d'Orsay, qui s'appelle maintenant ministère de l'Europe et des Affaires internationales. Donc c'est un signal quand même qui est envoyé. Et Philippe Étienne, son conseiller diplomatique, son sherpa, est certainement le meilleur connaisseur au Quai d'Orsay des affaires européennes. Et puis, il était en poste en Allemagne, donc c'est un signal. On voit bien qu'une des priorités d'Emmanuel Macron sera une relance de la construction européenne, avec certainement une relance de l'axe franco-allemand qui avait souffert au cours des dernières années et qui est moins solide qu'il ne l'était dans le passé.
Allez donc, soyons concrets. Par exemple, sur le Proche-Orient, est-ce qu'on connaît la doctrine d'Emmanuel Macron?
C'est là où il s'éloigne un peu de la tradition gaullo-mitterrandienne dont il se réclame, dans la mesure où il a dit qu'il ne reconnaîtrait pas la Palestine de façon unilatérale. Hollande l'avait promis, il ne l'a pas fait. Au moins, lui n'aura pas à renier une promesse qu'il a faite. Et qu'on voit bien qu'il dit qu'il ne faut pas couper avec Israël, sinon on n'aura pas d'influence pour Israël. Donc on voit bien que sur ce point, en fait, il ne peut pas avoir de problème sur le plan de la politique intérieure par rapport à un dossier qui est certainement celui qui suscite le plus de passion à l'intérieur de nos frontières.
Vous qui êtes un observateur avisé de ce qui se passe dans le monde, est-ce que vous voyez Emmanuel Macron comme quelqu'un qui peut être important dans la politique mondiale dans les années qui viennent?
Ça dépendra de lui, ça dépendra effectivement s'il fend vraiment l'armure et s'il prend le rôle. En tous les cas, son élection a été suivie au niveau mondial et c'est plutôt réconfortant de voir que le monde entier a suivi avec intérêt l'élection du président français. Ça veut dire quand même que la France compte encore dans le monde. On a des atouts, et bien c'est au président de les utiliser à bon escient.
Merci Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Un président américain en exercice à Bruxelles, on y revient, et son prédécesseur à Berlin. L'Allemagne commémore ce week-end les 500 ans de la réforme protestante. Des offices religieux et festivités sont prévus jusqu'à dimanche, notamment à Berlin, où Barack Obama arrive aujourd'hui. Il sera accueilli par Angela Merkel. Il y aura des festivités, donc, mais surtout à Wittenberg, la ville de Martin Luther, en ex-Allemagne de l'Est, où plusieurs centaines de milliers de pèlerins sont attendus. Sur place, le reportage de Cyril Sauvageau.
Devant la gare de Wittenberg, une Bible géante accueille les visiteurs. Ils seront des centaines de milliers ce week-end à venir sur les traces du père de la Réforme, car c'est ici en 1517 que tout a commencé.
Derrière moi, vous pouvez voir la porte de l'église où, selon la légende, Martin Luther a placardé ses 95 thèses.
L'acte fondateur du protestantisme, un passage obligé pour beaucoup de croyants, comme Dagmar, venu de Dresde.
Je suis protestante et je voulais voir de mes propres yeux d'où vient notre foi. Luther et Wittenberg sont liés de façon indissociable.
Grâce au tourisme religieux, la petite ville d'Aix-Allemagne de l'Est a retrouvé un certain dynamisme depuis la chute du mur. Beaucoup ici vivent de l'héritage de Luther, et pourtant, seuls 10% de la population est protestante, au grand regret du pasteur Johannes Block.
C'est comme s'il n'y avait que 10% de catholiques à Rome. C'est regrettable, mais il y a des raisons à cela. Deux dictatures, le nazisme et la RDA se sont succédés ici. Ça ne veut pas dire pour autant que cette culture a disparu.
Car ici, la figure de Luther est omniprésente, jusque dans les multiples produits dérivés qui encombrent les boutiques du centre-ville. Wittenberg, Cyril Sauvageau, France Inter.
Avant de déjeuner avec Donald Trump, Emmanuel Macron a rencontré ce matin à Bruxelles le président turc Recep Erdogan. Il devait notamment évoquer avec lui le cas du photoreporter français indépendant Mathias Depardon, qui dimanche dernier a commencé une grève de la faim pour protester contre son incarcération depuis 18 jours dans une prison turque. Cet homme de 37 ans a été arrêté alors qu'il faisait un reportage pour le magazine National Geographic, arrêté sous le prétexte désormais courant en Turquie en ce moment de complicité avec une organisation terroriste. En fait, il devait être expulsé il y a 14 jours de Turquie, où il vit depuis 5 ans. Personne ne comprend ce qui se passe. RSF, Reporters sans frontières, avait appelé à un rassemblement ce matin à Paris, devant l'ambassade de Turquie, et vous y étiez, Alexandra Akoun.
Oui, une ambassade qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris, à quelques pas de la maison de la radio. Des militants de Reporters sans frontières s'y étaient donné rendez-vous en compagnie de Danielle Vandelanotte, la mère de Mathias Depardon, 18 jours qu'elle n'a aucun contact direct avec son fils.
Il ne reçoit aucune visite de l'ambassade. Personne ne peut y aller, sauf une avocate. Donc ça, je trouve intenable pour lui, qui ne sait même pas ce qui se passe ici à l'extérieur. La pression qu'on essaye de mettre aussi, ça pourrait au moins lui donner un peu de courage pour tenir.
Il a été très longtemps enfermé, pratiquement dans une cellule obscure, où il pouvait sortir deux fois par jour. Il a dû demander une alimentation végétarienne, et maintenant il fait la grève carrément. Il n'est déjà pas très gros, et je commence à craquer un petit peu.
Car dans ce dossier, c'est l'incompréhension totale. Les soupçons de propagande terroriste ont été abandonnés. L'ordre d'expulsion signé reste le prétexte administratif de sa carte de presse. Mathias Depardon ne l'avait pas lorsqu'il est parti en reportage sur les bords du Tigre et de l'Euphrate.
Il était inquiet de ne pas avoir cette carte de presse. Il savait qu'il y avait un danger peut-être pour lui qui planait à cause de ça. Mais bon, voilà. Elle n'avait pas été renouvelée.
Et RSF craint que les autorités turques ne cherchent à faire un exemple de Mathias Depardon. La rencontre Erdogan-Emmanuel Macron est donc cruciale pour Danielle Vandelanotte.
Erdogan, je suis sûre, n'est sûrement pas encore au courant. Les ministres le sont. Donc si maintenant ça ne se débloque pas, ça devient dangereux.
Et depuis quelques minutes, Erdogan, on l'espère, est maintenant au courant. Et si le président français l'entend, la mère de Mathias Depardon a un message pour lui.
Libérez-le, oui. Allez le chercher, faites n'importe quoi. Oui, je deviens très inquiète.
Merci, Alexandra Akoun.
France Inter, le journal de 13h. Alain Passerelle.
Édouard Philippe ne veut voir qu'une seule tête. Dans une circulaire signée du Premier ministre et publiée ce matin dans le journal officiel, le chef du gouvernement appelle sa nouvelle équipe à une triple exigence d'exemplarité, de collégialité et d'efficacité. Bonjour Frédéric Mettezo.
Bonjour Alain Passerelle.
Un discours de la méthode très strict.
Oui, 3,5 pages en petits caractères qui ont beaucoup occupé le cabinet d'Édouard Philippe, y compris le week-end dernier. Comme Michel Rocard en 88, l'ex-rocardien Édouard Philippe publie sa circulaire au journal officiel. Son texte sonne comme un réquisitoire contre ses prédécesseurs. Il veut revenir à un fonctionnement marquant l'autorité de l'État et le long terme et renouer l'indispensable confiance avec les Français. Le Premier ministre insiste donc sur l'exemplarité, déclarer son patrimoine à la haute autorité, donner tous les cadeaux reçus au mobilier national, refuser de se faire offrir des séjours privés. Si l'État doit être ferme et fort, ses serviteurs doivent être sobres et dignes, est-il écrit. écrit. La collégialité, les débats se font en interne, puis une fois la décision prise, les ministres doivent en être solidaires. Et puis l'efficacité, il est rappelé que les ministres sont les chefs de leur administration et que les directeurs d'administration centrale seront confirmés ou changés dans les 6 mois. L'entourage du Premier ministre le reconnaît, on dit toujours que ça va changer, alors attention aux vœux pieux. Et c'est vrai Alain, les révélations du canard autour de Richard Ferrand ont écorné la promesse d'exemplarité. Quant à la collégialité, méfiance, Édouard Philippe et Nicolas Hulot ne sont pas complètement d'accord sur Notre-Dame-des-Landes.
Frédéric Mettezo, la campagne des législatives avec La République En Marche qui proteste contre les règles en vigueur qui donnent la part belle en matière de clips de campagne aux partis dits majoritaires et d'opposition sous la précédente législature. Elle s'est vue attribuer cette République En Marche une durée totale de 12 minutes sur les 2 tours pour diffuser donc ces films de propagande, appelons ça comme ça, sur les chaînes du service public, contre respectivement 2h et 1h44 pour le PS et les Républicains. Elle a donc déposé un recours devant le CSA. La République En Marche, considérée comme un petit parti malgré la victoire de son candidat. Des petits partis, il y en a une bonne cinquantaine. Vous pourrez d'ailleurs en découvrir certains sur le site de France Inter. Parmi eux, le parti Égalité et Justice qui tente de séduire les Français d'origine turque. Tiens, encore la Turquie. Il présente des candidats dans 52 circonscriptions différentes. Il est souvent présenté comme une émanation de l'AKP du président turc Erdogan. Qu'en est-il vraiment ? L'enquête de Jean-François Fernandez de France Bleu Besançon.
Sur son site, le PEJ, le Parti Égalité et Justice, explique vouloir apporter un renouveau dans la politique, en quelque sorte un discours similaire à En Marche. Emre Demir est journaliste turc, il vit en France, il était rédacteur en chef du journal Zaman, qui a fermé. Journaliste d'opposition au président Erdogan, il voit dans ce parti un double discours.
Quand les candidats de PEJ parlent en turc, ils sont un peu comme Dieudonné, ils disent qu'ils sont des candidats anti-système, ils sont là pour défendre les intérêts de la Turquie, les intérêts d'Ankara, mais aussi les intérêts des musulmans. Quand ils parlent en français, ils adoptent en fait un discours tout à fait bisounours en disant qu'on va combattre pour le vivre ensemble, on représente un peu le renouveau politique.
Certains voient donc Ankara qui installe de cette façon en Europe un véritable levier. Des accusations infondées pour Sakir Kolak, strasbourgeois et président national du PEJ.
J'ai mis quiconque au défi de prouver qu'il y a un lien avec n'importe qui, nous sommes un parti français. Nous répondons aux besoins de la société française, notamment la classe populaire, la diversité culturelle et culturelle.
Pour qu'un parti politique bénéficie d'une aide publique, il faut avoir obtenu au moins 1% des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions. Le parti Égalité et Justice présente des candidats sur 52 circonscriptions en France. Le parti pourrait ainsi bénéficier de financement public pendant 5 ans.
Dans l'agenda des copropriétaires en France, il y a le plus souvent, en ces mois de mai et juin, la réunion annuelle de l'immeuble. Réunion présidée par le syndic qu'on peut situer en haut de la liste des professions qui n'ont pas très bonne presse. L'UFC Que Choisir ne va pas contribuer à améliorer cette image. L'association a publié hier la 2e édition de son observatoire des syndics. Inflation des forfaits, petits arrangements, contournement de la loi, clauses abusives. Le constat est terrible, Maxime Deps.
Et la loi Allure devait instaurer un contrat type valable pour tous les syndics de copropriété. Le but, que tous proposent les mêmes prestations, quelles qu'elles soient. Une sorte de forfait de base, de nature à faciliter la comparaison des syndics entre eux et ainsi favoriser la mise en concurrence. Problème, certains en ont profité pour gonfler leur prix de 30% parfois. Il est par exemple obligatoire pour chaque syndic depuis l'an dernier de s'inscrire sur un registre, un motif dont certains profitent allègrement, selon Clémentine Guyader, juriste à UFC Que Choisir.
Dans les faits, certains syndics facturent jusqu'à 1000 ou 1200 euros cette prestation-là, alors qu'elle devrait être facturée autour de 100 ou 150 euros.
Autre abus signalé par UFC Que Choisir, l'envoi de la fameuse lettre recommandée aux propriétaires en cas de litige, facturée 52 euros parfois, alors qu'un prix de 10-20 euros serait plus juste, selon notre juriste, laquelle compte également des dizaines et des dizaines de cas de clauses illégales ou abusives. Pour permettre de s'y retrouver, UFC met en ligne sur son site d'ailleurs un vrai faux dans le but de casser les idées reçues qu'on pourrait vous servir au cours de votre prochaine AG.
Merci Maxime Debs. Le Festival de Cannes en compétition pour la Palme d'Or aujourd'hui, notamment un film ukrainien. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Ça s'appelle Krotkaya, en français une femme douce, et c'est une histoire, me disiez-vous, qui dit beaucoup de choses sur la Russie d'aujourd'hui.
Oui, alors le procédé est connu, que ce soit en littérature ou en cinéma, une petite histoire vous en apprend sur une société. Une femme avait envoyé un colis à son mari qui est incarcéré et le colis lui revient. Pourquoi ? Est-ce qu'il a été transféré ? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose ? Pas de réponse. Il y a une part d'humour dans ce titre parce que c'est une femme effectivement de peu de mots, à l'obstination muette, mais elle va aller jusqu'au fin fond de la Russie où son mari est en prison. D'une certaine manière, c'est un road movie, même si le mot semble un peu étrange pour ce film-là. C'est un voyage, disons, dans la Russie reculée, dans l'humiliation, dans l'arbitraire, dans la violence, dans l'absurde. Il y a la manière de faire du cinéma de Loznitsa. Il prend son temps, il joue de la lenteur. Il y a des plans longs, parfois des plans fixes. Il y a une stylisation discrète. C'est le réel, mais c'est théâtralisé en même temps. Et ça crée une sorte de confusion qui est formidable au départ parce qu'on ne sait pas à quelle période ça se situe. Ce qu'il nous montre là, l'arbitraire, tout cela. Les policiers qui peuvent se permettre ce qu'ils veulent, mais aussi le petit chef à la poste qui peut vous rabrouer. On pense que c'est, il parle de la période soviétique. Et puis non, des accessoires, un ordinateur à écran plat, un téléphone portable vous montre que c'est aujourd'hui. La Russie profonde n'a pas changé, à moins qu'elle n'ait changé en pire. On voit que tous les rapports sociaux sont violents. On voit aussi des choses qui nous parlent de politique en creux. Ce n'est pas un brûlot politique au premier degré, mais il est question, par exemple, à un moment, cette femme va voir une organisation des droits de l'homme. C'est trois personnes dans un petit appartement. Les voisins les considèrent comme des fascistes et leur jettent des pierres. Elle dit, mais dans quel monde on vit pour que nous, défenseurs des droits de l'homme, on soit traités comme ça? Loznitsa est ukrainien. Il va parler d'un conflit qui n'est pas nommé, mais un homme va raconter à cette femme qu'il y a des hommes très forts psychologiquement qui sont employés à l'arrière du front pour brûler les corps des gens morts au front. Voilà, c'est dit et ça travaille dans notre tête.
Merci Eve Bétan, on est un peu pressé. Chanson douce de Sergueï Loznitsa. C'est l'une des compétitions sportives les plus prestigieuses au monde. La Coupe de l'América débute demain aux Bermudes, un petit archipel situé dans l'Atlantique. Vous avez entendu parler du triangle. Cette épreuve de voile oppose des bateaux représentant des nations. Cette année, il y en a 6, dont un français, une première d'ailleurs depuis 10 ans. Ce sont les Américains qui ont choisi les Bermudes, pourtant territoire britannique, pour organiser cette épreuve dont l'histoire est très longue, Jérôme Val.
À l'origine, la Coupe de l'América n'avait pas qu'un intérêt sportif. Quand le défi est lancé autour de l'île anglaise de White en 1851, il s'agit aussi de montrer qui des armateurs britanniques ou américains étaient les plus performants. La goélette baptisée America, l'ayant emportée, la Coupe du même nom, était lancée quelques années plus tard en 1870. Aujourd'hui, la vieille dame a bien changé, fini les effectifs pléthoriques. En 1903, le plus long bateau jamais construit pour la Coupe comptait plus de 70 membres d'équipage. Un siècle plus tard, ils ne seront que 6. Fini aussi le type un peu BCBG de l'épreuve, avec des yachtmen en blazer, les marins d'aujourd'hui sont de vrais athlètes, plutôt adeptes de la fonte. Il y a bien deux choses, en revanche, qui n'ont pas changé. Un, il vaut mieux être riche, le défi américain est soutenu par la 7e fortune mondiale. Deux, il vaut mieux être américain, sur les 34 précédentes éditions, les États-Unis en ont remporté 29. Les Bermudes, Jérôme Val, France Inter.
Ah, Jérôme Val qui n'a pas disparu, évidemment. Peut-être écoutez-vous France Inter tranquillement, en déjeunant, en ce jour férié, à l'orée du pont de l'Ascension, et peut-être bien au soleil, omniprésent aujourd'hui, vous l'avez compris. Météo France annonce des températures estivales pendant ces 4 jours, notamment en Bretagne. Résultat, les réservations sont allées bon train jusqu'à hier dans les campings sur la côte, comme l'a constaté Joanne Moison à Erquy, dans les Côtes d'Armor.
Dans tous les campings, le téléphone n'arrête pas de sonner.
Oui, alors un emplacement tente, jusqu'à dimanche.
Léna, que vous entendez, est responsable de la réception de ce camping 4 étoiles à Erquy. 416 emplacements sous les pins et le soleil, donc, ce week-end.
Les gens appellent, non, ils veulent réserver un mobil-home, on n'en a déjà plus. Alors on leur dit un emplacement, ils disent, bon, on va pour un emplacement. La tente leur fait pas peur avec un temps pareil. On se croira en été, hein. Du coup, ils viennent, oui.
À quelques kilomètres de là, toujours à Erquy, au camping Bellevue, un autre 4 étoiles, Guy a le sourire, propriétaire des lieux depuis un mois seulement. Son premier week-end de l'Ascension s'annonce plutôt bien.
C'est même très très bien. Peut-être pas complet, mais on est complet déjà au niveau des locatifs à 100%. Nos résidents vont tous arriver ce week-end aussi pour profiter du beau temps. Et je pense en terrain nu, entre 50 et 60% de remplissage.
Le soleil annoncé fait aussi chauffer le téléphone du camping 3 étoiles, les Hauts-de-Grès. Les mobilhomes affichent tous complets. Pour Jean-Paul, le propriétaire, c'est peut-être aussi les effets d'un autre climat qui s'apaise.
Les élections qui sont passées, il y a un nouveau climat qui se met en place, un apaisement, les gens reprennent de l'espoir et j'espère pour les semaines et pour l'été qui vient.
Voilà, et pour arriver au camping, il faut prendre sa voiture et ça n'est pas toujours facile, notamment au sortir des grandes villes. On fait un point pour terminer sur l'état de la circulation au PC Mobilité avec vous, Thomas Pontillon. Beaucoup de monde ?
Oui, c'est toujours saturé en ce moment sur la 13. Dès que vous quittez Paris, vous avez devant vous plus de 40 km de bouchons et plus d'une heure d'attente. C'est compliqué aussi sur la 7 de Lyon jusqu'à Montélimar. Comptez quasiment 2h30 pour relier les deux villes. Sur la 61 entre Toulouse et Narbonne, là aussi c'est très dense. Sur la 9 et la 54, les bouchons sont en train de se résorber. Mais c'est maintenant en direction des principales stations balnéaires que ça se charge. C'est pareil en sortie de Nantes vers le Morbihan ou sur la 63 de Bordeaux vers Arcachon. Comptez une bonne heure avant de pouvoir mettre les pieds dans l'eau. Une bonne nouvelle quand même, le pic des bouchons qui a atteint plus de 760 km est passé. Mais il va falloir être encore un peu patient avant que tous les embouteillages se résorbent.
Soyez patients, effectivement. Merci Thomas Pontillon et bon week-end à tous.